c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chut, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les 2 Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-Lavalette, Saint-Genis-de-Saint-Onge et sur mazagran-immobilier.com.
Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente. Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Allez, quel bonheur de vous retrouver en ce lundi de Pentecôte avec un sommaire bien chargé. On va parler de la série Les Randonneuses qui va tirer sa révérence ce soir sur TF1 avec les 2 derniers épisodes, dont un consacré à Tiffaine Davio qui sera notre invité dans une poignée de secondes. On va parler de Tropique Criminel et Demain nous appartient avec lui, où il joue un très joli rôle de médecin dans le rôle d'Aaron. C'est Stanny Copé qui sera avec nous dans une poignée de minutes également. On va parler du téléfilm Lorla qui sera diffusé vendredi sur Arte. À cette occasion, Mouna Soualem, l'héroïne, aux côtés de Bastien Bouillon, sera notre invité. Nous aurons également Marion Desaigne Ravel, la réalisatrice, et la productrice Iris Strauss. Et puis on va parler musique également dans cette émission avec le nouvel album d'Olivier Dion qui sera en ligne avec nous et qui va nous présenter ce très bel album. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec nos coups de cœur télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé consacré aux randonneuses, c'est la suite et le final ce soir sur TF1 qu'on va découvrir de nos randonneuses préférées. C'est désormais comme ça qu'on va les appeler, les randonneuses. C'est celles qui sont en train de gravir le dôme de la Lauze. Et on va dire que c'est très joyeux justement comme série. Et les 2 épisodes de ce soir vont notamment s'intéresser, puisque chaque épisode est consacré un focus sur une de ces 6 femmes. Et c'est celui de Morgane qu'on va découvrir ce soir un peu plus intimement, et c'est Tiffaine Davio qui l'interprète et qui est avec nous pour notre plus grand plaisir. Bonjour Tiffaine.
Bonjour.
Merci d'être là. On va parler de Morgane en particulier, évidemment Tiffaine. C'est ton épisode ce soir, le 5e que vous allez voir à 21h10 sur TF1. On a déjà l'impression que tu as pris beaucoup de plaisir en tout cas à tourner cette série, Tiffaine.
Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir avec mes comparses et 5 autres actrices. Voilà, on s'est découvert, on s'est super bien entendu. Donc, en plus, un cadre qui est quand même assez incroyable. La montagne, moi, en plus, étant quelqu'un vraiment de la mer, j'étais très heureuse de découvrir la montagne et la montagne d'été. Et c'est, on a eu la chance quand même d'aller dans des endroits qui étaient vraiment sublimes. Et le tout couronné, voilà, par ce sujet hyper puissant, fort. Fédérateur, c'était très chouette de pouvoir mettre ça en avant sur TF1 et d'y aller sans concession, vraiment de raconter tout ce qu'il y a à raconter et d'ouvrir les horizons là-dessus et surtout d'y amener du soleil, de la fraîcheur.
Oui, de façon joyeuse. Ça, c'est important de le dire. C'est vraiment amené de façon joyeuse. Alors, je dirais peut-être que le personnage à la base de Morgane est peut-être la plus discrète au départ, en tout cas, dans cette série.
Oui.
Hein, on découvre petit à petit sur elle. On a découvert qu'elle avait mené de front la maladie. En plus, maintenant, elle était enceinte. Mais au fur et à mesure, voilà, c'est vraiment le personnage, une des 6 filles, en tout cas, qu'on avait l'impression d'être la plus discrète depuis le début de cette randonnée.
Oui, absolument. Alors moi, ça m'a bien changé. On a dit, je suis quand même la plus bavarde. Ouais, j'étais plus bavarde, on va dire. Effectivement, elle a un côté assez taiseux comme ça. Elle est hyper en retrait. C'est un peu un satellite dans le groupe. D'ailleurs, c'est celle qui connaît moins les filles, en fait. Et qui arrivait vraiment en dernier, qui est la plus jeune aussi, qui a effectivement des secrets. Et c'est vrai qu'elle est là, un peu mystérieuse. Elle est beaucoup dans l'observation. Voilà.
Alors, et on va en apprendre plus ce soir sur elle, en tout cas.
Exactement. Exactement.
On va découvrir la Morgane d'un peu plus près. Comment tu la définirais, toi, Morgane, vu par Tiffaine Davio?
Je crois que c'est quelqu'un de très blessé, mais qui ne veut pas le montrer. chose comme ça de très enfoui en elle, mais parce que c'est un truc assez structurel, c'est il y a longtemps comme ça, qui s'est du coup créé sa personnalité un peu en s'emmurant comme ça dans un truc un peu bunker. Il y a des gens comme ça. Et du coup, elle est peu poreuse, mais ça veut pas dire qu'elle est pas sensible et qui se passe plein de choses, mais voilà, c'est genre un petit rock, mais pas si solide que ça.
Et ben voilà, comme ça vous avez Morgane vue du téléspectateur et Morgane vue par Tiffaine Davio. Quel a été ton meilleur souvenir de tournage? Est-ce que t'as un souvenir particulier à nous raconter? Parce que quand on tourne dans des conditions, alors je vais pas dire extrêmes parce que là c'est la montagne en été, mais ça a dû créer quand même quelques complications, quelques situations cocasses. Hein. Ouais, à 3000, oui, ça doit commencer à être un peu frisqué, mais du coup vous étiez à l'abri de la canicule, quoi.
Ah ça, oui, on était à l'abri de la canicule, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. C'était très compliqué, il y a deux trucs, à la fois... monté à 3600 mètres, on avait deux œufs tous les matins qui étaient ouverts juste pour nous, et donc c'était trois quarts d'heure d'un premier œuf, puis trois quarts d'heure d'un autre œuf, on montait jusqu'à la grave, et là-haut, tout gonflait, les paquets de chips, les... on a du mal à respirer, on a du mal à avancer, enfin, on sent vraiment le... ça c'était assez étrange, il y a des gens qui ont été malades, des gens qui ont été obligés de redescendre, que l'altitude c'est pas si évident à vivre en fait.
Ah bah surtout et, 3600, oui.
Ouais, c'est haut. En vrai, mais ça, c'était assez cool d'essayer ça et d'y aller tous les matins. Donc, tous les matins, tous les soirs, on avait bien 3h02 par jour. Donc, ça rajoute quand même une journée qui était assez dense, plus physiquement, ce truc. Et en plus, ce qui était compliqué, c'est qu'on dormait en bas. Donc, on devait dormir peut-être à, je vais pas dire n'importe quoi, mais je crois à 2000 mètres ou quelque chose comme ça, ou 1500. Et du coup, en fait, comme nos globules rouges étaient complètement surdéveloppés toute la journée, parce que ça fait ça dans son altitude, bah, le soir, moi, je sais que je dormais, je sais pas, entrecoupé, toutes les heures ou toutes les deux heures, réveillée. Du coup, le corps a une réaction comme ça de donner de l'énergie, il a besoin d'énergie, plus d'énergie là-haut, et du coup, la nuit, c'était l'enfer. Donc ça, les deux premières semaines là-haut, elles étaient sympas. Mais c'était assez génial parce qu'en même temps, on a eu à la fois une tempête de neige, on a eu aussi un temps sublime là-haut, le soleil hyper dégagé, hyper ouvert.
Parce qu'il paraît que vous avez pris une tempête quand même hein, pour démarrer le tournage fin mai, c'était pas triste quand même, hein, tempête de neige carrément fin mai quoi.
Ouais, exactement, et du coup, il fallait changer tout le temps de travail parce que ça ne coïncidait pas du tout à ce qu'on voulait faire, etc. Et il fallait quand même qu'on ait une fenêtre où on montait, alors, je crois que ça devait être à 3007 ou quelque chose comme ça, enfin, le point culminant vraiment. Et il fallait qu'on ait une fenêtre pour que ça soit très très dégagé et qu'on puisse vraiment avoir le sommet de la montagne et tout ça et tout. Ça n'a pas été évident. Mais par contre, c'était vraiment cool d'accéder à ça, quoi. Moi qui ne suis pas une grande sportive de la montagne, j'étais contente de le faire dans ces conditions-là.
Bon, si tu connaissais Alix Poisson, il y en a d'autres évidemment parmi ces six femmes dont tu as fait connaissance sur ce tournage. Il y a eu un vrai effet de troupe finalement avec ces randonneuses.
Ouais, carrément. Moi, je suis très contente de ça et de. C'est quand même trois mois dans des conditions à la montagne et tout. C'est pas si évident aussi, effectivement, après c'était l'été et tout ça. Globalement, on était bien, mais on est quand même dans des endroits perdus, loin de. C'est les toilettes sèches, c'est sur des cailloux tout le temps. Enfin, il y a pas forcément. C'est pas en termes de confort, en tout cas sur le tournage dingue. Et c'est le contact de nature comme ça, c'est à la fois hyper satisfaisant, hyper agréable en même temps. C'est assez épuisant aussi, on oublie le réseau, on oublie tout ça, bref. Et ça s'est hyper bien passé entre nous aussi, vraiment, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'écoute, d'entraide, il y a eu un vrai truc de sororité, mais je pense que parce qu'on était toutes là pour la même chose, on avait toute envie de raconter la même histoire et de défendre ce truc-là à fond. Ça a été un bon socle commun, mais il y a une vraie sororité, ouais, c'était très agréable.
Bon, les projets pour toi, Tiffaine, alors est-ce qu'on peut espérer retrouver pour une troisième saison inédite, Sheila, dans HP?
Non, malheureusement.
Il n'y aura pas de suite à HP, pourtant ils vont toujours vers une saison 3 généralement, vers une trilogie
tout
souvent dans ces
séries. Nous-mêmes, la vérité, très décontenancée, effectivement. On était partis sur l'écriture de la troisième saison, enfin, pas moi, hein, moi je ne suis pas ta femme, mais on a su plutôt les dernières minutes de l'année dernière qu'en fait ça ne se ferait pas.
Oh, c'est dommage.
Oui, je suis d'accord.
Bon, mais écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Tiffaine. On te retrouve ce soir dans Les Randonneuses. Ça sera ton épisode à 21h10, celui concentré sur Morgane, en tout cas ton rôle. Et on te remercie encore une fois d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, j'espère que ça vous plaira.
Merci beaucoup. Et voici tout de suite un petit extrait. À très bientôt.
Je suis là.
Elle est là.
Il y avait un problème de réservation.
C'est pas grave si on n'est pas toutes ensemble.
Mais soyez sympa, elles ont un cancer. Oh. À quoi? Il faut bien que ça serve à quelque chose. Hein.
C'est un enterrement de vie de jeune fille ou...
Presque.
On va aller tout ensemble jusqu'en haut, avec toi et pour toi.
Même pour des gens bien portants, ça reste une ascension difficile.
Et dans nos coups de cœur télé, mardi, un documentaire exceptionnel à découvrir sur France 5 intitulé « En avant guinguette » qui va s'intéresser au succès croissant des guinguettes qui sont redevenues à la mode. On va y découvrir de nombreux protagonistes et ceux qui fêtent la guinguette. Et vous allez voir justement dans ce documentaire que ça n'intéresse pas que les plus âgés, que les plus jeunes s'y mettent aussi. Voici tout de suite la bande-annonce. C'est demain soir 21h sur France 5.
Bonjour monsieur, dame. Bienvenue à la guinguette.
Il y a la guinguette avec tous ses ingrédients.
Ça fait plaisir de voir des gens danser.
Elle a le sens du populaire, la guinguette.
Et celle qui change la recette.
Il va y avoir des concerts, il va y avoir des DJ.
Il y a une vraie démarche pour proposer des produits de saison.
L'idée, c'est qu'il y ait des gens qui viennent un peu de partout.
C'est un patrimoine, il faut qu'on puisse le transmettre.
Et on va marquer une pause. Stanny Copé, Mouna Soualem, également Olivier Dion seront nos invités. Alors surtout, ne bougez pas. Chute en écoute, la télé revient dans un instant. À tout de suite.
On écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
De retour dans Chut, on écoute la télé avec nos coups de cœur télé. Et on va passer à mercredi maintenant avec La vie secrète des hypermarchés. Une série documentaire sur Cister à découvrir. Avec trois hypermarchés qui ont été passés à la loupe pendant trois mois. Sous le regard des caméras. Entre mise en avant du personnel qui se dévoue corps et âme pour leurs clients. Ou encore directeur en quête d'inspiration pour attirer toujours plus de clientèle. La vie secrète des hypermarchés vous propose une immersion complète. Voici tout de suite un extrait.
Ils sont en première ligne face à la baisse du pouvoir d'achat. Nos supermarchés, d'énormes machines à vendre qui se livrent à une guerre sans merci pour attirer toujours plus de clients, sans rogner sur la fraîcheur des produits. 7 jours sur 7 à l'aube, une fourmilière s'active pour remplir nos rayons coûte que coûte. Pendant plusieurs mois, nous avons posé nos caméras dans 3 hypermarchés.
Et elle est infatigable jeudi. Quel bonheur de retrouver Morgane Alvaro qui va se retrouver encore aux prises avec des quiproquos. Encore pas possible. HPI est de retour pour un nouvel épisode d'Inédit. Pour notre plus grand plaisir, voici tout de suite un extrait.
Oui. Avec Timothée, là ?
C'est sûr que non, je suis pas avec Timothée. Pourquoi je serais avec Timothée ?
Bah, il assurait ta protection cette nuit, non ?
Passez-le, moi je vais me dénoncer. J'ai abusé de votre fragilité émotionnelle, je suis pas digne de travailler dans la police.
Alors oui, il était là, effectivement, mais il est parti il y a longtemps, là.
Il est parti ? Non mais c'est pas du tout la procédure. Pas une protection à...
Personne ne va se dénoncer à personne. Tu disais ?
Je passe le prendre, du coup.
Pourquoi tu passes me prendre, là ?
Scène de crime sur la D55.
Non, ça m'arrange pas, en fait.
Notre coup de cœur télé est consacré au téléfilm Le Horla, qui sera diffusé cette semaine sur Arte. À cette occasion, on reçoit aujourd'hui la productrice Iris Strauss. Bonjour Iris.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Marion de Seigne Ravel qui est avec nous. Bonjour Marion, à qui l'on doit les meilleurs. L'année dernière d'ailleurs au cinéma. Merci d'être avec nous Marion.
Bonjour, merci d'être là.
Qui réalise ce film. Mouna Soualem qui est avec nous également, qui joue le rôle de Nadia dans le film aux côtés de Bastien Bouillon qu'on avait découvert dans ce très beau film primé à Luchon d'ailleurs qui s'appelle Simple. Merci d'être avec nous Mouna.
Merci.
Alors ce film est une adaptation d'une œuvre de Maupassant bien connue. Moi-même à l'école, on a été contraint et forcé de le lire à l'époque, hein, parce que quand on est jeune, on n'aime pas forcément lire quand on a 12, 13, 14 ans. Et il est vrai que ce livre a marqué des générations entières, cette œuvre de Maupassant. Qui a eu l'idée en fait de l'adapter ici en film ? Iris ?
En fait, ce sont les deux scénaristes, Olivier Fox et Olivier Deplat, qui sont venus me proposer cette adaptation à la base en série. C'était une idée qu'Olivier Fox avait depuis très longtemps, comme il nous a raconté un peu plus tard. Voilà, c'est une nouvelle qu'il avait beaucoup aimée et qu'il avait lue à une époque particulière de sa vie et qui donc avait résonné pour lui de manière très intime et particulière. Ils m'ont proposé de l'adapter en série. Moi, j'ai beaucoup aimé l'adaptation, mais je pensais que c'était mieux de le faire en unitaire. Donc, on a proposé l'adaptation en unitaire à Arte, qui est là, validée.
Marion, comment on s'attaque à un monument littéraire comme Maupassant quand on est réalisatrice et dans l'adaptation, dans le scénario, comment on s'attaque à ça ?
Bah, je vais dire un truc qui est peut-être pas très orthodoxe, mais je crois qu'on l'oublie, en fait. C'est-à-dire que on est parti de Maupassant, mais si j'essayais d'être fidèle, d'être trop fidèle, je pense que ça aurait été, en tout cas pour moi, complètement invalidant, parce que c'est un monument de la littérature, parce que c'est un texte que tout le monde a lu et que beaucoup de gens aiment. Et donc, j'avais peur d'être un peu bloquée, en fait. Et donc, j'ai essayé de retrouver de la liberté en laissant de côté le texte dans son côté, dans le récit, qu'il met en place, et en étant juste fidèle à une seule chose, c'était le sort de sentiment de perte que le personnage du Horla, dans la nouvelle de Maupassant, qui a pas de nom d'ailleurs dans la nouvelle, sentiment de perte et d'angoisse et de quelque chose qui vacille, qui glisse autour de lui, de rester fidèle à ça, et ensuite d'inventer moi ma propre grammaire en fait.
Il y a trois personnages principaux dans cette œuvre. Alors, on a celui de Damien, on a celui de Nadia joué par Mouna, puis on a l'appartement qui est quand même un grand personnage à part entière. Mouna, qu'est-ce qui vous a plu en tout cas, vous, dans ce projet qui vous a fait y aller?
Ben moi je trouvais ça hyper intéressant de faire une adaptation très contemporaine du Horla, donc quand j'ai lu le scénario ça m'a beaucoup plu. Aussi tout ce qui est dans le scénario, ce qui m'a plu c'est tout ce qui est lié à la sensation vraiment, donc que ce soit l'espace comme tu disais de l'appartement qui est très présent, tout l'aspect sonore aussi qui va venir en fait mettre cette tierce personne dans la famille.
Ah oui, la musique d'Alexandre Le Sertisseur est incroyable. Hein.
Ça m'a beaucoup plu, moi c'était aussi très nouveau pour moi, j'ai jamais joué une jeune maman, enfin il y a plein de choses très nouvelles, j'avais très envie de rencontrer Marion, j'étais très heureuse de retrouver Bastien, et je trouvais le rôle de Nadia très intéressant parce que justement elle va essayer d'accompagner au mieux son compagnon jusqu'au jour où elle n'arrivera plus à lui faire confiance et que en fait tout bascule puisqu'elle voit aussi que lui ne fait pas tout pour les protéger de lui-même, voilà, donc je trouvais ça très fort.
Pour raconter un petit peu quand même aux auditeurs ce qu'on est en train de quoi on parle. Alors là suit les aventures de Damien et de Nadia qui emménagent avec leur fille dans un appartement. Damien suit Nadia sur un nouveau travail et Damien va se retrouver aux prises avec des démons internes, externes. En tout cas, c'est ce qu'on verra et c'est vous qui vous ferez votre propre idée dans ce film. La photographie a une place énorme dans le film, la réalisation, les jeux d'ombre. Il y a beaucoup de choses qui ont une très très grosse place où il a fallu vraiment s'armer d'une équipe assez incroyable au niveau lumière, photo, etc. Marion.
Oui, tout à fait. Et puis là, je voudrais en profiter pour vraiment saluer le travail de Pierre Babouin, qui est un chef opérateur que Iris m'avait fait rencontrer et qui est quelqu'un d'extrêmement délicat et à l'écoute. Et en fait, avec Pierre, mais aussi avec l'équipe décoration et l'équipe costume, on a essayé tous ensemble à quatre têtes de penser une image du film, une sorte d'image globale du film avec des dominantes chromatiques très fortes. Tout le film est dans des teintes de bleu-vert avec des touches de jaune qui appartiennent à Nadia et qui apporte une sorte de contrepoint coloré et solaire à l'angoisse, à la névrose de Damien qui est plus dans les tons bleu-vert. Donc on a vraiment travaillé cette image pour essayer de passer par des sensations colorées, des sensations visuelles. Et puis il y a la bande-son aussi qui vient rajouter une couche de sens à tout ça, qui a été aussi travaillée à plusieurs mains avec la musique d'Alexandre dont vous avez parlé tout à l'heure, Alexandre Le Sertisseur, qui a fait quelque chose, je trouve, d'une grande finesse. Mais il faut aussi, je pense, parler du montage son et du mixage avec Michael Barr et Gilles Bernardo qui ont travaillé avec le musicien main dans la main pour proposer des sons étranges, des grognements, des crissements, des choses qu'on n'arrive pas forcément à nommer, à comprendre, et qui viennent envahir l'espace sonore du personnage, qui viennent le rendre fou, littéralement. Et on a travaillé sur cette indécision où la musique et le montage son se mélangent jusqu'à ce qu'on ne sache plus très bien est-ce que ça c'est une note de musique un peu bizarre ou est-ce que c'est un son un peu musicalisé, et qu'on soit un peu comme le personnage de Damien à se demander, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train d'entendre? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Est-ce que j'imagine? Voilà, toutes ces questions-là qu'on a essayé de traduire en fait par les éléments de la mise en scène.
L'heure là, c'est diffusé cette semaine sur Arte. On écoute un petit extrait, on revient juste après avec vous.
Nadia, t'entends?
Hypersensible.
Il est un peu bizarre ces derniers jours. Mais il dit qu'il y a quelque chose.
Complètement barré.
Vous l'entendez pas?
Le bruit. Qu'est-ce que tu me veux? Arrête!
Le Horla, d'après l'œuvre de Maupassant, vendredi à 20h55 sur Arte.
Le Horla, on continue à en parler, c'est diffusé cette semaine sur Arte. Mouna, on va revenir sur le personnage, celui de Nadia, parce que même si la folie s'empare tout doucement de Damien, Mouna prend pas tout de suite la mesure de ce qui est en train de se passer, prend même ça un peu de façon légère, un peu la rigolade au début, avant évidemment de prendre conscience de ce qui est en train de se passer. C'est vrai que c'est un personnage au départ qui essaie de temporiser en fait Damien.
Oui, et puis légère parce qu'il se passe aussi plein d'autres choses pour Nadia. Je pense qu'ils sont dans des rythmes assez différents, qu'ils attendent aussi un deuxième bébé, qu'il y a toute l'installation de l'appartement, qu'elle du coup...
Au travail ?
un nouveau travail. Lui reste à la maison étant en télétravail, donc c'est un petit peu plus facile pour lui d'installer l'appartement et tout. Elle s'en veut un petit peu, mais c'est comme ça que les choses se font. On n'a pas tout de suite envie de s'inquiéter, je pense. Qu'on a envie un peu de faire confiance à la personne qu'on a devant soi jusqu'à ce que, en fait, on n'ait plus aucun point de repère. Et je pense que c'est ça qui se passe aussi pour Nadia, c'est que tout va basculer quand elle va vraiment comprendre qu'en fait ça ne va pas du tout, qu'elle ne peut pas l'aider. Et puis quand il lui ment, on va pas trop en dire non plus, mais quand il lui ment, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui vient se briser dans leur relation amoureuse aussi entre eux. C'est la première fois qu'il va lui mentir, donc il y a une incompréhension. D'un coup, elle ne retrouve plus du tout Damien, son compagnon, ni le père de sa fille. Donc il y a des proportions qui dépassent un peu juste son mal-être à lui. Je pense qu'elle doit prendre des décisions, des responsabilités pour aussi prendre soin d'elle et de sa fille.
Au fur et à mesure, il risque les images de ce hors-là arriver. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est productrice, c'est fidèle à ce qu'on pensait, à ce qu'on voulait au niveau de cette adaptation?
Oui, moi je suis très heureuse du film et je suis très heureuse d'avoir rencontré Marion et qu'elle se soit emparée de ce texte pour l'amener là où elle l'a amené, parce que je trouve que c'est fait avec beaucoup de finesse. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est qu'elle a travaillé le surnaturel dans le quotidien. Et c'est vrai que c'était quelque chose dont on avait parlé dès le scénario, dont qu'on avait envie de mettre en scène, et je trouve que ça, elle le met très bien en scène. Donc moi j'aime beaucoup ce film. Oui, je suis très très contente de ce qu'elle en a fait. Je suis ravie des comédiens. Je trouve qu'ils incarnent nos personnages, mais divinement bien. Et à la fois, évidemment, quand on travaille sur un texte longtemps, on imagine des choses. Et puis après, il y a un metteur en scène qui arrive et qui s'en empare. Et elle l'a emmené là où elle le voulait. Et le film me plaît beaucoup. Donc je suis très contente.
Il y a des scènes qui ont été particulières à mettre en boîte. Est-ce que justement, on redescend l'impression entre chaque scène quand on joue des scènes d'angoisse, quand on joue des scènes des fois un peu difficiles? Comment ça se passe entre les prises? On décompresse ou pas? Marion, on reste concentré. Je m'adresse à la réalisatrice, là.
En fait, ce qui est très compliqué quand on est réalisateur et ce qui est passionnant, c'est qu'il faut qu'on arrive à être spectateur, nous-mêmes spectateurs. C'est-à-dire qu'on est derrière le combo et la prise se déroule, les comédiens jouent. Et à la fois, on ressent à l'instant T des choses en tant que spectateur et il faut qu'on s'appuie sur ce ressenti-là. Est-ce que la prise est juste? Est-ce que les comédiens sont justes? Est-ce que le rythme est le bon? Et en même temps, on doit faire le travail intellectuel de remettre cette petite pièce du puzzle qui est le plan qu'on est en train de tourner dans le grand puzzle d'ensemble qui va être un film d'une heure et demie. Et donc on fait toujours des va-et-vient entre qu'est-ce que je ressens au présent? Est-ce que je ressens de l'angoisse quand Damien a peur? Est-ce que je ressens de la joie quand ils rigolent ensemble, etc.? Et puis est-ce que ça marche dans le film? Est-ce que ça a sa place dans l'ensemble? Est-ce qu'on tient la note qui doit être la note du film tout du long?
Mouna, est-ce qu'il y a une scène particulière justement avec Bastien un peu difficile ou au contraire plutôt une crise de rire, de rigolade, un fou rire sur un moment particulier de ce tournage à nous raconter?
Bah des rires tout le temps, des scènes difficiles, il y en avait, oui, parce que c'est un rythme très tenu. Je pense qu'aussi c'est les scènes où vraiment ils se parlent à deux mais qu'ils ne parlent pas de la même chose. C'était un peu les scènes difficiles où fallait qu'on les nuance quand même. Ce qui est chouette avec Marion, c'est qu'on a pu énormément répéter en amont, ce qui fait qu'on était déjà très en accord chacun sur ce qui se passait et qu'on avait vachement l'espace de pouvoir aller plus loin sur le moment. Donc dès qu'il y avait des moments un peu difficiles, on était toujours en conversation. Voilà, donc non, pas vraiment de moments difficiles.
Je crois que ce qui était le plus difficile, c'était plus pour Bastien, parce que lui, il y a toute une partie du film où il est seul dans l'appartement et il joue avec des choses qui ne sont pas là, qui n'existe pas, qui soit arrive en post-prod, le son on l'a rajouté en post-prod par exemple, la musique, etc. Et lui, il n'avait aucun repère de jeu, donc il fallait qu'on construise ensemble qu'est-ce qui se passait dans sa tête et qu'on trouve toujours le curseur pour ne pas aller trop loin dans la folie, pas aller trop loin trop tôt, toujours réfléchir à où en était la scène pour qu'on ait la pression à la fin en voyant le film, que c'est une lente et progressive chute dans cette forme de folie qui va le rattraper, ou le hors-là qui va le rattraper, on ne sait pas, est-ce que c'est de la folie, est-ce que c'est le hors-là, que ce soit progressif et qu'on l'accompagne là-dedans. Et ça c'était compliqué, c'était un vrai défi.
On va retrouver en tout cas le hors-là, c'est cette semaine sur Arte. Merci d'avoir été avec nous, toutes et trois, pour nous parler de ce film. On y retrouve au casting Mila Arbouche, Alix Blumberg, Mouna, bien sûr, Bastien Bouillon, qu'on a plaisir à retrouver aussi dans ce rôle. Merci Iris, merci Marion et merci Mouna d'avoir été avec nous.
nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé consacré à Demain nous appartient et Triopic criminel avec Stany Copé qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Stany.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, je suis super heureux de t'avoir puisque évidemment on te retrouve dans Demain nous appartient tout au long de la semaine dans le rôle du beau nouveau docteur qui est arrivé, qui fait tourner les cœurs de Soizic et de Victoire. Et puis c'est pas tout, tu ne t'es pas arrêté là puisque Cyril Aubrin a fait son arrivée dans Tropic criminel en infiltration sur les premiers épisodes et donc c'est tout au long de la saison qu'on va pouvoir suivre aussi ce nouveau personnage. Dis-moi, deux beaux rôles qui t'attendent sur des fictions en plus très belles, très suivies en ce moment.
Déjà la saison dernière, en saison 3, sur un guest, toujours le même personnage, Cyril Aubrin, commandant de gendarmerie. Et là, ils m'ont fait revenir pour la saison 4 en infiltration. C'est l'intérêt amoureux de la commandante Saint-Rose, donc jouée par Sonia Roland.
Et oui.
Et depuis quelques mois maintenant, je suis aussi sur la série Demain nous appartient, qui est très suivie en effet. Et j'ai beaucoup de chance aussi, bien entouré, un beau rôle, sur Aaron Leclerc qui a... Comme tu l'as dit, il fait tourner
un petit peu les têtes effectivement, mais on va voir s'il cache des secrets. Peut-être cache-t-il des secrets, c'est ce qu'on a pensé au début, évidemment. Mais on va découvrir au fur et à mesure peut-être plusieurs facettes de ce personnage.
Ouais, est-ce que déjà un frère qui arrive, son deux frères est adopté, il y a qui est joué par Sofiane Francine.
Ouais.
C'est Simon Leclerc qui arrive, qui est avocat, et cette semaine, je crois qu'il entre en diffusion, donc c'est un des secrets qui est dévoilé sur son passé. Ça va être très, très excitant, très intéressant aussi, ce qui va se passer avec son frère.
T'es installé vraiment à long terme, là, sur Demain nous appartient, parce que, est-ce qu'au début, tu pensais arriver peut-être que pour quelques semaines, pour un guest, ou là, vraiment, t'arrivais dès le départ pour vraiment un certain temps, quand même assez long, pour vraiment développer ton personnage sur la longueur?
On rentre un peu dans les secrets de fabrication de la série là, mais effectivement moi quand j'ai signé un contrat de récurrent, donc je suis là pour normalement durer, mais vous savez on est jamais très à l'abri de quoi que ce soit sur ce genre de projet, puisque du jour au lendemain on peut très bien être assassiné, disparaître, être muté à l'autre bout de la planète.
Oui.
Donc tout peut arriver, même si effectivement j'ai prévu de rester quand même. Voilà, donc on est sur nos, comme on dit aux États-Unis, on my toes, sur la pointe des pieds, on est prêt à partir, on ne sait jamais à n'importe quel moment. Ça dépend des auteurs, voilà.
Bon, du coup, t'es loin de la Guyane, mais quelque part, en même temps, ça te fait beaucoup de tournage entre Demain nous appartient et Tropic criminel. Du coup, ça va faire des pauses dans DNA pour que tu puisses tourner Tropic criminel, parce que la saison 5 est en cours là en ce moment de tournage aussi en Martinique.
Effectivement, là, ils sont en train de tourner la saison 5 de Tropic criminel. Moi, je suis entre Madrid et Sète, donc je suis pas en ce moment en Martinique et je peux pas en dire plus parce que peut-être que j'y serai, peut-être que j'y serai pas. Je laisse le suspense peut planer.
Ah, et oui.
La saison 5. Exactement.
On va découvrir jusqu'à la fin de la saison 4 ce qui va arriver évidemment à Cyril Aubrin. Alors comment tu définirais ces deux personnages, toi, celui d'Aaron et celui de Cyril? On va commencer par celui d'Aaron.
Aaron Leclerc est un esprit libre, un peu vagabond. Il a fait des études, il est brillant dans son métier, mais il a effectivement une part d'obscurité, plutôt d'ombre. Donc il a des secrets à révéler. Il est surtout attaché à sa liberté. Voilà, c'est un type qui est attaché à sa liberté et pas au matériel. Donc
oui, il vit dans un mobilhome d'ailleurs, oui.
Exactement. Et lui aussi peut du jour au lendemain décider de faire ses bagages et de partir. Donc c'est un peu ça la ligne directrice du personnage. Après il a quand même une certaine éthique, tout ce qu'il fait il essaye de le faire bien. C'est en cela que moi aussi je me retrouve un petit peu dans ce personnage. Quand je fais quelque chose j'aime bien le faire bien.
Il est des fois cash avec les patients.
Il est assez cash avec les patients. Il aime pas qu'on se moque de lui ou qu'on lui raconte des bobards. Mais il a aussi un côté très sensible et très empathique, de l'empathie aussi pour les gens. Il aime les gens. C'est pas un antisocial non plus. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il peut être cash.
Ouais, c'était son arrivée, ça. Puis on va découvrir évidemment plusieurs facettes de ce personnage, parce que c'est ça qui est intéressant de jouer un personnage sur la longueur, c'est de pouvoir en multiplier les facettes tout au long des intrigues qui sont proposées, évidemment. Alors, et puis Cyril Aubrin qu'on découvre. Alors, il y a eu une infiltration en début de saison où Mélissa du coup a retrouvé ce personnage de Cyril. C'était hyper drôle dans les chevaux là sur les premiers épisodes. Qu'on a ri.
Ah, c'est super. Ouais, non, on s'est bien éclaté à faire cet épisode qui est divisé en deux. C'est la première fois que la production de Tropic criminel se risquait à faire un épisode qui traînait sur deux épisodes en fait. Et c'était très drôle, Sonia s'est travestie, enfin le personnage de la commandante Sainte-Rose s'est transformé en masseuse shiatsu pour chevaux, donc c'était assez drôle dans son nouveau look. Enfin, en termes de travail, on s'est pas mal éclaté. Moi, j'adore monter à cheval, donc j'étais dans un milieu qui me correspond aussi. Et puis, fin de l'épisode, apparemment, Cyril Lebrun doit repartir. Mais ceux qui ont vu les... parce qu'en ce moment, je sais pas si vous le savez, mais je parle pour les auditeurs, mais il y a tous les épisodes sur la plateforme France 2, donc ils sont en avant.
Tout à fait, sur France.tv, vous avez toute la saison et on vous en distille sur France 2, en tout cas, un par semaine maintenant.
Un par semaine. Et donc, je ne spoil rien en disant que Cyril Lebrun reste finalement. Donc, ça va être rigolo. Il y a des rebondissements.
Elles doivent te faire rire des fois toutes les deux, non? Parce que alors, Béatrice et Sonia, c'est deux bouts en train, dans la vie, mais comme devant l'écran, là, on rigole vraiment avec elles, quoi.
Alors Béatrice, c'est explosif. Béatrice, elle est incroyable. Et surtout en impro, elle arrive à sortir des trucs. Elle est un peu plus sérieuse, on va dire. Un peu plus rangée. Mais Sonia, elle, est une partenaire formidable. La personnification de la classe, c'est incroyable. Et puis, en tant que partenaire, en tant que femme dans la vie, elle est extraordinaire. J'ai été très, très bien servi et très heureux de travailler avec ces deux partenaires incroyables.
Bon, t'es gâté. En tout cas, on te retrouve à 19h10 sur TF1. Tous les soirs du lundi au vendredi et le vendredi à 21h10. Eh bien, ça sera Tropique Criminel avec un nouvel épisode inédit qui sera proposé. On termine par tes projets, Stani?
Alors mes projets, moi je produis aussi, donc j'ai quelques projets que je suis en train de développer, plutôt de la fiction, court métrage et long métrage. Pour le moment c'est en développement, donc je peux pas trop en parler non plus. J'ai aussi un documentaire que je produis sur les origines gitanes de Charlie Chaplin avec la famille Chaplin, qui sera au cinéma normalement à l'automne.
Ouais, génial ça.
Automne 2023, ouais. Donc voilà, c'est mon côté producteur là.
Eh bien écoute, on reste connecté maintenant hein, depuis La Vie Pure. Écoutez, s'il y a un film dans lequel moi je t'ai découvert, le film de Jérémy Benster, c'est La Vie Pure évidemment. On a eu l'occasion de faire connaissance à cette occasion-là. Et si vous voyez passer ce film sur une des chaînes où vous pouvez vous le procurer en VOD, vous allez voir Stani Copé, tu en baves hein, quand même hein, dans ce film. Je pense que c'est un souvenir assez incroyable que tu dois garder du tournage en Guyane. Mais voilà, moi je vous le conseille en tout cas. C'est toujours un petit peu la Madeleine de Proust.
Merci de mentionner La Vie Pure, qui est un film qui m'a beaucoup marqué, effectivement, pour lequel j'ai beaucoup donné, qui date un petit peu, mais moi je dis que c'est un film un peu intemporel, puisqu'il parle de choses, du dépassement de soi, de l'envie d'aller suivre ses rêves jusqu'au bout, donc ça c'est intemporel. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup donné, physiquement, émotionnellement, puisque c'est un film pour lequel j'ai perdu beaucoup de poids, dans lequel mon personnage se perd en pleine forêt et il touche du doigt ses démons et la mort surtout. Donc ouais, c'est un beau projet, un beau film que Jérémy Benster a brillamment mis en scène et avec lequel j'ai eu plaisir à travailler puisqu'on a écrit ensemble le scénario et on a produit le film ensemble. Donc c'était une vraie belle aventure humaine.
Bon, à très vite Stani, merci d'avoir été avec nous, d'avoir passé ces quelques minutes et puis on te dit à bientôt.
Ça fait bien. À bientôt, j'espère, oui.
Allez, à très vite, merci. Et on va se quitter avec un petit extrait.
Thaïs, t'es réveillée?
Ah, t'es là. Regarde ce que j'ai pris pour le petit-déj. Des pommes cannelle.
Fous de ma gueule, toi, je commence à 8h.
Ça va, on peut prendre 5 minutes pour prendre le petit-déj. Et oh, oh, oh! Pourquoi tu réagis comme ça, là?
Mais t'es con ou quoi? Tu m'as laissé seule toute la nuit.
Mais t'es pas toute seule, il y a plein de monde dans la marina. C'est comme une coloc géante.
T'es jamais là, j'ai pas signé pour ça, moi.
Ça va, c'était juste cette nuit, c'est bon.
Allez, avec Tropique Criminel, toujours des bons moments en perspective. Allez, on va se retrouver dans un tout petit instant. Celui que vous avez découvert dans Danse avec les stars ou encore dans la comédie musicale Les Trois Mousquetaires, Olivier Dion, va nous parler de son troisième album que vous allez pouvoir découvrir dans Chute, on écoute la télé. Alors surtout, ne bougez pas, on revient, à tout de suite.
Chut, on écoute la télé, chut, on écoute la télé, le talk show radio. La découverte musicale, chut, on écoute la télé.
Notre coup de cœur musical aujourd'hui est consacré à Sur le fil, le nouvel et troisième album d'Olivier Dion qui est avec nous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur le fil, troisième album. Olivier, depuis 2015, la France devient quasiment ton deuxième pays avec la participation à Danse avec les stars et tout ce succès aujourd'hui en France. Franchement, c'est chouette.
Ouais, franchement, ça a été des belles années depuis Danse avec les stars en France. Et je dirais que depuis la pandémie, malheureusement, m'a ramené beaucoup au Canada, mais là, je retourne très bientôt. Là. Je prévois aller en France, tu vois, en mois de juin, juillet. Un peu de temps chez vous, ça va faire du bien.
Tu reviens très vite, ici, pour pouvoir présenter cet album sur le fil, alors qu'il est sorti sur toutes les plateformes de téléchargement légal, déjà, pour commencer. Et donc, il est sorti partout dans le monde, du coup, grâce aux plateformes de téléchargement. Alors, sur le fil, c'est un album de 13 chansons que tu as écrit, composé, t'as tout fait toi-même. Hein.
Ouais, j'ai fait moi-même en collaboration avec d'autres auteurs-compositeurs que j'ai rencontrés principalement à Paris, d'ailleurs. C'est un album que j'ai commencé à écrire il y a 3 ans et demi. Et puis, j'en étais là, j'avais envie d'écrire un album qui racontait un peu de mon histoire. J'avais envie d'avoir une approche hyper sincère, hyper transparente, chose que j'avais jamais vraiment fait ou eu l'occasion de faire dans mes anciens projets. Donc, c'est mon album le plus personnel jusqu'ici.
Un album personnel où tu as trouvé justement l'inspiration d'écriture pour cet album. Est-ce que tu as des conditions particulières dans lesquelles tu dois te trouver pour peut-être te régénérer et justement trouver cette inspiration, notamment pour écrire les titres?
Non, en fait, justement, c'est probablement la première fois de ma vie où je... Pas la première fois, mais c'est la première fois que je le faisais de façon aussi conséquente ou pour un album complet.
Ouais.
Je me suis vraiment inspiré de choses au travers lesquelles je suis passé, soit dans ma vie, soit dans des moments précédents. Puis à ce moment-là, sur mon album, j'étais... Au moment d'écrire cet album, j'étais un peu perdu. Je me suis posé beaucoup de questions. Je venais de terminer Les Trois Mousquetaires. Je venais de terminer d'animer une grosse émission à la télé au Canada. Et puis, je me demandais un peu où j'en étais. Qu'est-ce que j'avais envie de faire? Il y a beaucoup de remises en question qui sont apparues. Et cet album-là, j'ai eu envie d'en parler, en fait. J'ai eu envie de parler du sentiment d'être perdu, du sentiment d'être un peu incompris aussi, de devoir faire des choix alors qu'on est aussi dans un regard qui est public, quand il y a des gens qui nous regardent. Donc il y a une espèce de rapport aussi au regard de l'autre qui,
oui, au jugement.
Qui est présent dans l'album, au jugement et tout. Donc voilà, je me suis inspiré vraiment de sentiments qui étaient bien présents pour en faire l'écriture.
Alors il y a quand même la moitié de ton cœur qui est en France, parce que quand je vois que t'as un titre quand même sur ton album qui s'appelle Paris,
ouais,
même si parenthèses n'est plus la même, tu as quand même écrit une chanson sur Paris. Ouais.
Non, absolument. Ben oui, en fait, puis c'est une chanson qui parle d'une histoire d'amour que j'ai eue à Paris pendant que j'étais là-bas, puis qui a été un petit peu compliquée, mais qui a pris beaucoup de place dans ma vie pendant mon séjour. Et puis Paris, ben en fait, oui, cet album-là dépend beaucoup de choses. Tu sais, ça parle beaucoup de mes dernières années de vie, puis de mes remises en question pendant que j'étais à Paris, très loin de chez moi aussi. Il y a ce rapport à la distance aussi que j'évoque. Donc oui, Paris est beaucoup, et la France en fait est très présente dans cet album, dans l'écriture de l'album. D'ailleurs, les collaborateurs avec qui j'ai travaillé sont principalement français.
Et alors, le titre d'après Paris s'appelle « Je veux rentrer chez moi ». Ça, c'était un peu le mal du pays, du coup.
Ouais, c'est ça, exact. Non, exactement. Ça, c'est un espèce d'appel de réconfort, puis de rentrer à la maison, se ressourcer. Puis je l'ai vécu ça un petit peu. Puis je pense que moi, quand j'écris l'album, je pensais beaucoup à ce que je vivais. Pour tout le monde, la maison, c'est la maison. Et donc, que tu sois loin, que tu aies du succès ou que tu vives toutes sortes de choses, parfois, tu as besoin de ce sentiment de devoir revenir à la maison.
Alors, quel premier titre tu aurais envie de nous faire découvrir maintenant, Olivier?
Ah, c'est une bonne question, c'est moi qui choisis?
Ouais, tu choisis, j'appuie sur le bouton, j'ai tout l'album devant moi, j'appuie sur le bouton et on envoie celui que tu veux maintenant. Rendez-vous, la plage, dans ma tête, ce que tu veux.
Alors, j'ai envie qu'on y aille avec une chanson qui est très justement très très intime, qui témoigne du tourbillon qu'on peut avoir un peu dans notre tête parfois quand on pense à quelqu'un. Et elle s'appelle donc « Dans ma tête ».
Dans ma tête, c'est le quatrième justement titre de cet album. Ça s'appelle « Sur le fil ». Olivier Dion est notre invité. On l'écoute et on revient juste après avec toi, Olivier. À tout de suite.
Tête, pourquoi ne pars-tu pas de temps en temps? Dans ma tête, pourquoi ne pars-tu pas de temps en temps? Impossible de revenir en arrière, impossible d'aller de l'avant. T'auras toujours une vraie place dans ma tête. Parfois je fais semblant, impossible de revenir en arrière, impossible d'aller de l'avant.
Voilà, dans ma tête, premier extrait qu'on vous fait découvrir de cet album qui s'appelle Sur le fil. Alors Olivier, si la musique est une de tes premières passions, il n'en reste pas moins que tu es aussi animateur et ouais. que tu viens justement de récupérer l'émission L'île de l'amour pour sa troisième saison au Canada. Parle-nous un peu de cette émission, c'est quoi L'île de l'amour ? On dirait que c'est un peu un mi-chemin entre l'île de la tentation et le Bachelor chez nous.
Ouais, c'est ça, exactement. En fait, vous avez... Mais il y a une version française de L'île de l'amour, c'est Love Island, en fait.
Ah oui, d'accord.
L'île de l'amour, vous savez, nous au Québec, on aime bien traduire tous nos noms d'émissions. Donc, on n'a pas d'anglicisme, c'est vraiment... L'île de l'amour, c'est la version québécoise de Love Island.
De Love Island, donc, qu'on voit en ce moment sur W9, nous, avec Delphine Westpisser, effectivement.
Exactement, c'est ça. Et donc, moi, je suis l'animateur. On m'a demandé d'animer cette saison. Donc, ça se passe en République dominicaine. Ouais. D'ailleurs, je suis encore là. Je sais pas si vous entendez le son des vagues derrière, mais je suis encore ici.
Arrête d'essayer de nous faire rêver. Voilà. Il fait beau chez nous aussi.
C'est vrai. Je suis ici. Donc, voilà, pour animer, pour épauler des gens qui viennent trouver l'amour dans un cadre idyllique.
Et ça te plaît? Ou c'est quelque chose de secondaire pour toi, malgré tout? C'est quand même la musique, ton ADN? Ou est-ce que vraiment l'animation, c'est quelque chose que t'as envie de développer aussi?
J'ai toujours adoré la télé. J'avais déjà animé une émission de télé, une émission de danse au Québec, c'était en 2018, et j'avais adoré mon expérience. Puis tu sais, quand j'ai fait Danse avec les stars, j'ai fait des gros projets de télé dans ma carrière. Puis j'ai toujours, c'est un environnement, il y a une énergie en télé que tu retrouves pas, ouais. Ailleurs, et j'adore ça. Donc de pouvoir animer une émission, moi, ça me fait franchement beaucoup de plaisir.
Oui, parce que t'as été découvert, il faut quand même le dire, peut-être les auditeurs le savent pas, mais t'as été découvert il y a presque 12 ans maintenant dans la Star Academy québécoise, alors que l'émission n'existait plus chez nous d'ailleurs.
C'est vrai. Star Academy qui à l'époque avait été un énorme succès chez nous. Donc c'est comme ça, c'est de là que je suis né moi en tant que personne publique.
Ben oui, et 3 ans plus tard tu débarques en France. Ça t'a surpris justement de voir ce succès français quasi immédiat, ton encontre justement quand t'as débarqué en France pour chanter, pour faire Danser avec les stars, les Trois Mousquetaires, tout s'est enchaîné très très vite chez nous là pour toi.
Vraiment, puis en fait je pense que j'avais pas le recul à l'époque, mais avec du recul aujourd'hui je me rends compte de la vitesse à laquelle c'est allé, et c'est quand même assez fascinant. Et puis je pense que à l'époque quand t'es dans le tourbillon, t'arrives pas à réaliser tout ce qui arrive, mais effectivement c'est allé tellement vite, puis ça a été une expérience assez folle que Danse avec les stars, et ensuite d'enchaîner en étant d'Artagnan dans les Trois Mousquetaires, c'était vraiment, ça a été des belles années pour moi en France.
Et puis alors, tu as peut-être un souvenir de notre région, parce que dans notre région, pour le coup, ouest de la France, il y a un célèbre fort dans lequel tu es venu justement jouer, ouais. Fort Boyard. Quel souvenir tu gardes de cette participation?
Écoute, un bon souvenir, je suis allé quand même près de 4 fois, il me semble.
Ben oui, non mais tu connais par cœur quasiment l'ouest de la France maintenant, du coup.
Presque par cœur. Il y a plus aucune énigme qui m'échappe. Depuis ce temps-là, quand on m'invite à faire des énigmes dans des jeux de société à la maison, on me veut dans son équipe.
Entre Olivier Dion à Fort Boyard et les Rochelais, champions d'Europe au rugby, franchement, tu vois, l'ouest de la France rayonne en ce moment. Bon, on va continuer à parler de Sur le fil. On va choisir un deuxième titre que tu vas nous faire découvrir d'ici quelques instants. Mais juste avant de choisir ce deuxième titre, je voudrais savoir tes projets, notamment en France, mais également ailleurs, après la sortie de cet album. Est-ce que tu aurais des envies peut-être aussi de jouer la comédie, du cinéma, du théâtre, de la télévision, en fiction par exemple? Que ce soit en France ou au Canada?
J'adorerais, en fait. C'est mon prochain rêve à réaliser, ce serait d'avoir un rôle, que ce soit à la télé ou au cinéma. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Mais là, pour l'instant, sur un laps de temps plus rapproché, j'aimerais beaucoup aller présenter mon album sur scène, en spectacle. Et donc, je suis à la préparation de tout ça. Et voilà, je vais faire des annonces sous peu, ce sera sur mes réseaux sociaux.
Eh bien, à suivre Olivier Dion officiel sur Facebook, sur Instagram, évidemment, on peut t'y retrouver, Olivier. Et puis, on va choisir ce deuxième extrait de ton album Sur le fil, qu'on retrouve sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Cher Olivier, lequel tu as envie maintenant qu'on dégaine?
Ben écoute, étant donné que je suis à la plage, en ce moment, je suis sur la plage. Mmh. Enchaînons avec ma chanson qui s'appelle La Plage.
On va s'écouter maintenant, ça va sentir bon le sable chaud en tout cas. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous, ouais. Et puis on te dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Dès que tu arrives en France, n'hésite pas. Si tu as besoin, on est là.
Avec plaisir. Merci beaucoup, merci à vous.
À très vite, La Plage, Olivier Dion, deuxième extrait de cet album Sur le fil, on l'écoute maintenant.
Il y aura toujours une plage, un orage. toujours ton visage. Une place pour toi. Il y aura toujours une plage. Ton visage. Il y aura toujours une place pour toi.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on parlera de la sortie du film Marinette, le biopic sur la vie de Marinette Pichon, la footballeuse. Nous aurons également le plaisir de recevoir Benjamin Doub à Paris, les doubles actualités entre Ici tout commence où il y joue le rôle de Solal et également Tropique criminel où il joue le fils de Sonia Roland. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer lundi prochain.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.